Je raconte souvent d'ailleurs à des gens que m'est arrivé souvent de pleurer puis de dire « Je suis plus capable, Seigneur, j'arrête, j'en ai ras-le-pompon. » Ma femme a vécu avec un fantôme pendant 3 ans. Je calcule à peu près 10 000 heures de travail pour ça. Mais 10 000 heures en 3 ans, ça fait plus que 40 heures semaine. Mais je suis content. Je suis content parce que je suis un « nobody », comme mon ancien pasteur se plaît à dire. Il dit pas ça de moi, mais il utilise l'expression. Moi, je peux le dire de moi, mais j'aimerais pas ça qu'il le dise, lui. Et quand j'ai fait le lancement du livre, j'ai dit, vous savez, lorsque Paul dans Corinthiens dit que Dieu a choisi les choses folles du monde et les choses faibles du monde, c'était moi pour cet ouvrage. J'ai même pas terminé un secondaire 5 et il a permis que j'écrive un livre sur la pensée du monde, des débuts à aujourd'hui, avec tout ce que ça peut impliquer. Alors, je suis reconnaissant au Seigneur pour ça, parce que tout au long, je lui ai demandé de me donner l'intelligence spirituelle. Il fallait que moi, je comprenne ce que je disais. Il fallait que je sois capable d'englober tout ça, et il me l'a donné, et je suis reconnaissant. Pour terminer ça, je sais que 100 $, c'est dispendieux. Je suis conscient de ça. Mais il m'a coûté 45 000 $ ce livre-là. Et puis, j'aimerais bien ça être capable de rembourser ceux qui m'ont prêté. Alors, ceux qui sont intéressés puis qui n'ont pas tout à fait les sous, bon, vous pouvez faire 2 chèques de 50 $. Et j'ai pas de problème avec ça, je suis conscient. Mais il y a une chose que je veux préciser, c'est que ne vous privez pas de ce qui est essentiel pour ça. Si vous n'êtes pas capable de vous l'acheter, c'est pas dramatique. Alors, privez-vous pas de ce qui est plus important que ça dans votre vie pour vous procurer le livre. Mais si vous pouvez le faire, ça ne fait rien. De vous financer un bout de temps. Bon, je ne suis pas venu ici juste pour vous parler du livre. Moi, je suis un baby boomer, les méchants. Ceux que la génération montante commence à haïr avec un E. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est venu au monde avant vous autres, c'est pas de notre faute, mais puis dans le fond, vous devriez être reconnaissant parce que si on n'avait pas été là, ben vous autres non plus, vous seriez pas là. Alors, je suis né en 1947. En passant, il y a une erreur sur l'endo du livre. Je suis né en 72 sur l'endo du livre. Le problème, c'est que je suis né de nouveau en 72. Alors, on a confondu les deux. Je vous dirais honnêtement que, pour moi, je considère que ma nouvelle naissance est plus importante que la première, mais je suis obligé d'admettre que s'il n'y avait pas eu la première, il n'y aurait pas eu la deuxième non plus. Enfin, à l'époque, j'étais astrologue. J'avais une chronique dans Éco-Vedette. Une chronique hebdomadaire où je faisais la carte du ciel d'un artiste ou d'une une personnalité du monde en général. Et je recevais un courrier à l'époque qui était quand même assez volumineux. J'avais un bureau où je recevais des clients. Et pour moi, l'astrologie, c'était ma vie. Je me levais le matin et je regardais, j'analysais ma carte du ciel pour savoir ce qui était pour m'arriver. Du moins, je pensais que j'étais en mesure de voir tout ça à l'intérieur de la carte. Mais Dieu m'a interpellé à plusieurs reprises. Je me suis retrouvé au mois de mai 72 avec un kiosque au premier Salon international des sciences occultes de Montréal. À ce moment-là, j'avais lancé un micro-sillon. Pour les plus jeunes, un micro-sillon, ça ne vous dit rien, là. C'était à l'époque des dinosaures. Alors, c'était un grand morceau d'acétate ou de plastique, ou je ne sais pas comment on appelle ça, et sur laquelle il y avait des sillons qui étaient gravés, et ça lisait la musique ou en tout cas les informations qui étaient là-dessus. Et pour lancer justement ce micro-sillon-là, j'avais profité de cet événement-là, qui était quand même assez particulier parce que c'était le premier Salon international des sciences occultes. D'ailleurs, il y avait des gens de tout acabit là-dedans, là, des fakirs qui couchaient le bébé sur des lits de clous, ils le relevaient plein de trous, puis ils disaient « Mon bébé, il n'y a rien! » En tout cas, le bébé, peut-être qu'il n'y avait pas de trou, mais je pense que le parent, il en avait un petit peu. Ouais. Pas nécessairement sur l'abdomen. Et à cette époque-là, j'étais, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais vraiment convaincu que l'astrologie, c'était scientifique, c'était sérieux. J'avais même rencontré à cette occasion-là l'avocat de Henri Gazon. Alors, les plus vieux parmi vous autres, vous devez vous rappeler du professeur Gazon. Alors, moi, j'étais persuadé que je pouvais donner les preuves scientifiques de la véracité de l'astrologie. Bon, évidemment, c'est pas vrai parce qu'il y en a pas. C'est pas scientifique. Mais moi, j'étais convaincu, dur comme fer, que l'astrologie avait des fondements scientifiques. Dans le bouquin, je développe vraiment le thème de l'astrologie à partir de son origine et de toutes les explications scientifiques, précession des équinoxes, etc., pour aider les gens à comprendre qu'il faut chercher ailleurs que dans la science l'explication du fait que des fois, et je répète, je mets l'emphase sur le « des fois », l'astrologie, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner parce que si c'est pas scientifique, il faut qu'il y ait une puissance, il faut qu'il y ait une force derrière ça qui fasse que les événements vont se produire tels qu'ils ont été prédits. Je me rappelle, entre autres, il y a une dame qui était venue me voir à mon bureau et j'avais dit à la dame, « Madame, il va arriver telle affaire à telle date. Votre fils va voler la voiture, la voiture de la maison. Je n'avais pas spécifié de son mari, mais en fait, c'était... À l'époque, c'était plus les maris qui avaient des voitures. Vous êtes chanceuses, les femmes, aujourd'hui, vous savez. Je sais, vous l'avez gagné durement. En tout cas, vous dites ça. Mais, j'avais dit, bon, telle date, le fils va prendre la voiture, puis il va avoir un accident, puis il va démolir complètement la voiture. Et c'est en 1972 que j'y avais fait cette prédiction-là. Et l'événement devait se produire à l'été 72. Mais moi, entre-temps, au mois de mai, je me suis converti au Seigneur. Et elle accourait après ma sœur pendant tout l'été pour essayer de lui dire que c'était arrivé puis qu'elle entre en communication avec moi pour me dire que c'était arrivé. Alors, et c'était quand même un événement qui n'était pas heureux. Hein? Je cours après tout le monde pour dire, c'est assez fort, là! Mon fils, il a volé l'auto puis il l'a scrappé! En tout cas, cette personne-là, malheureusement, par la suite, a accordé beaucoup plus d'importance encore à l'astrologie. Alors, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi est-ce que cette prédiction-là s'est accomplie? Pour deux choses. D'abord, la personne croyait dur comme fer en ce que j'y avais dit. Alors, ça, c'est le premier ingrédient. Et le second ingrédient, c'est que Satan, c'est pas celui avec des collants noirs puis une grande queue, là, puis des cornes. C'est pas ça. C'est un être très brillant, qui n'a pas perdu de son intelligence. Et à partir du moment où je crois ce genre de choses-là qui sont prédites, lui est capable de s'organiser pour faire que ces choses-là vont arriver. Parce que, ainsi faisant, il va augmenter la foi ou la crédulité des gens par rapport à les prédictions qui sont faites. Vous savez, je m'excuse, j'ai des problèmes de avec tous les médicaments que je prends. J'ai l'assèchement de la bouche qui m'arrive souvent, alors je suis obligé de quand je parle. Alors, il y en a des bienheureux qui n'ont pas besoin de m'entendre souvent, donc je n'ai pas à boire du liquide dans leur présence. Alors, le prince des ténèbres, puisque c'est de lui qu'on parle, il s'organise pour que... Parce qu'il y a un certain contrôle sur les événements. Il est toujours limité par ce que Dieu lui permet. Je dois vous avouer que tout au cours des 36 ans de ma vie chrétienne, ça m'est arrivé souvent de dire que je trouvais que Dieu lui permettait beaucoup. Mais en tout cas... un jour, ça va être terminé pour lui, j'ai hâte. Il va devenir le marchepied du Seigneur Jésus. Mais en attendant, il est toujours le prince de ce monde de ténèbres. Alors, tout l'occultisme en général et l'astrologie aussi sont sous son contrôle. Alors, il est capable de s'organiser pour que les événements arrivent. Moi, à l'époque, on revient en 1972 à ce fameux salon des sciences occultes. J'avais rencontré tout plein de gens, là, des gens plutôt étranges, entre autres des religieuses qui étaient encore... À l'époque, c'était la fin. Les religieuses avaient plus leur grande soutane, grande robe là, noire, qui faisait peur aux enfants quand on était petit. Alors, je vois ces deux religieuses-là qui s'approchent de moi dans le kiosque que j'avais à ce salon des sciences occultes-là. Puis, c'était pas écrit sur leur front que c'était des religieuses, mais mettons que quelqu'un qui était un petit peu averti, je lui dis, vous êtes des religieuses, vous n'avez pas d'affaires ici, vous autres. Dieu défend dans sa parole de consulter des gens qui font... Alors, Dieu défendait, puis c'était pas correct pour eux autres, mais moi, c'était correct pour moi d'être là. Il y avait comme un problème. J'avais rencontré aussi un prêtre qui... avait abandonné la religion catholique, puis il disait l'avenir à partir d'une boule de cristal. Fait que lui aussi, je me suis empressé de lui dire de quitter sa boule de cristal parce que ça entrait en contradiction avec ce que la parole de Dieu disait. Mais il disait, le jour où tu vas lâcher ta carte du ciel, il dit, moi, je lâcherai ma boule. Malheureusement, je ne l'ai pas revu. J'aimerais ça le revoir. Pour lui dire, moi, je l'ai lâché, ma carte du ciel, ça fait 36 ans. Qu'est-ce qui a fait que j'ai abandonné? Je vous disais que c'était ma vie. Il n'y a pas une journée qui commençait sans que j'essaye de comprendre ce qui allait m'arriver. Comme si j'étais soumis à l'influence des planètes, des étoiles, etc. Alors, évidemment, j'ai eu beaucoup de commentaires à l'époque. Je me souviens même, j'avais reçu une demande pour faire une carte du ciel d'une jeune fille. Et une semaine après que je lui ai envoyé sa carte du ciel, c'est son oncle qui m'écrit pour me donner des versets qu'on va lire tantôt. Qui défendait l'astrologie, qui défendait ces pratiques-là. Et moi, le jour où je reçois la lettre de ce chrétien-là, qui me met en garde, qui me dit, ben écoute, ça va à l'encontre des enseignements de la Bible, tu peux pas faire ça. Et le même jour, moi, j'avais dit à mon associé dans le bureau où je recevais les gens, il avait dit, « Si Dieu veut pas que je fasse ça, il va me le dire. » La lettre était partie avant que je dise ça, parce que je l'ai reçue la même journée. Et ça m'a fait réfléchir, mais sans doute que ce n'était pas suffisant. Quelques jours après la conférence, le salon des sciences occultes, il y avait eu un bonhomme qui était venu à Montréal, un nommé Kurt Koch. Sans doute que certains parmi vous se rappellent de ce nom-là. Et c'était un Allemand qui écrivait pour dénoncer l'occultisme sous toutes ses formes. Et je me rappelle cette espèce de géant-là qui, bien évidemment, géant, c'est relatif, hein, mais moi, à partir du moment où ça dépasse 5 pieds 10, pour moi, c'est gigantesque, là. Mais évidemment, aujourd'hui, j'ai un peu de difficulté parce que la génération montante, elle est très montante. Elle est tout en hauteur. Je me rappelle, j'avais une grande djellaba ou une robe, si vous voulez, en velours, vert, à paillettes. C'était cute, pas mal. Avec les cheveux aux épaules, la barbe jusqu'ici. J'écoute la conférence du monsieur et après que la conférence est terminée, je me lève, je dis, « Monsieur, je suis astrologue, mais je suis aussi chrétien. » Oh boy! Je revois ce bonhomme-là qui me dit en allemand, qui me cite en allemand ce passage d'Ésaïe 47, et je l'entends encore. « Stay out in thine enchantment and in thy multitude of thy sorceries. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges. » On va le regarder. Ça vaut la peine. Parce que c'est, si on veut vraiment comprendre, Ésaïe 47. À partir du verset 12, « Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. » Imaginez-vous le petit bonhomme qui entend ça de la bouche d'un géant, Le petit bonhomme, il était petit, plus petit encore. Mais c'est pas tout d'entendre un passage comme ça. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes que c'est la parole de Dieu puis que c'est Dieu qui te parle. Moi, j'étais convaincu que je pouvais être les deux. Je pouvais être un bon astrologue puis un bon chrétien. Mais ça ne marche pas. Hein, c'est un ou l'autre. Et étant donné que, à ce moment-là de ma vie, on est au début du mois de mai, je dirais autour du 12 de mai, je ne suis pas encore tout à fait prêt. J'ai accepté le Seigneur le 28 mai, 16 jours plus tard. Et ce qui m'a frappé quand j'ai revu ce monsieur-là, c'est que la première chose qu'il a faite quand il est retourné en Allemagne, il a écrit à tous les gens, il y avait une lettre circulaire qu'il envoyait chaque mois à les gens qui le supportaient. Puis il a écrit une lettre circulaire, puis il a demandé à tous les chrétiens qu'il connaissait de prier pour Yves Petel. Honnêtement, moi, je n'ai pas rencontré dans ma vie, puis ça fait 36 ans, je n'ai pas rencontré d'autres ex-astrologues. Je n'ai pas rencontré des gens qui avaient été aussi loin dans les sciences occultes. Sans doute qu'il y en existe. Je ne prétends pas être le seul, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je n'en ai pas rencontré. Et ça a été vraiment une grâce. C'est toujours une grâce, le salut de quelqu'un. Peu importe qui, puis peu importe ce qu'on fait. Mais quand on est dans le monde de l'occultisme, je peux vous dire que les liens sont plus solides. Et l'ennemi voulait me garder avec lui. Et Dieu sait que même au fil des ans, même le travail pendant les années que j'ai travaillé sur cet ouvrage-là, je peux vous dire qu'il a fait souvent des petites passe-passe pour essayer de me décourager, essayer de m'empêcher de terminer ce travail-là. Mais heureusement, Dieu est plus puissant. Celui qui est avec nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et c'est une grâce extraordinaire de réaliser qu'à partir du moment où je crie au secours, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. C'est une promesse de la parole de Dieu. Et si Dieu défend la pratique, ces pratiques-là, l'occultisme sous toutes ses formes, ce qui est intéressant dans le passage qu'on a lu, c'est que toutes les formes de divination reliées aux astres sont mentionnées. Alors, dans l'hébreu, il y a des caractéristiques, des spécifications différentes pour chacune de ces formes-là. Mais l'interdiction était déjà dans le Deutéronome, parmi les 613 préceptes de la loi mosaïque. Alors, Deutéronome, chapitre 18. Alors, je sais qu'il y en a sans doute beaucoup parmi vous qui connaissez ces versets-là, mais c'est bon de prendre le temps de lire pourquoi Dieu a interdit ces pratiques-là. À partir du verset 9, Deutéronome 18, 9, il s'adresse à Israël, à son peuple. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. » Alors, si je chasse ces nations-là devant toi, ben là, pas besoin de la tête à Papineau pour comprendre que si je fais les choses qui les ont rendues abominables aux yeux de Dieu, Dieu ne sera pas ben d'accord. Hein? Alors, c'est exactement, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, Parce que dans les offrandes à des divinités païennes, il y en avait une, entre autres, qui était d'offrir vivant son enfant, de le faire brûler vif pour Moloch. C'était spécial, hein? On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et le mot abomination fait référence à quelque chose qui dégoûte Dieu. Quelque chose qui est dégoûtant aux yeux de Dieu. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alors, comme on disait tout à l'heure, parce qu'ils sont abominables à mes yeux, je les chasse et je te donne leur pays. Alors, si toi, tu fais la même chose qu'eux autres, ben, je ne vais pas te donner des tapes dans le dos pour te dire que tout est beau. Il faut être conscient de ça. Et des fois, lorsque j'entends des chrétiens, même si c'est à la blague, qui me parlent de leur signe du zodiaque, j'ai des problèmes. Parce que c'est abominable aux yeux de Dieu. C'est pas drôle, c'est pas pour le fun. Parce que ce qui est abominable aux yeux de Dieu, c'est pas le fun. Alors, il faut que je comprenne ça. Car quiconque fait ces choses est en abomination, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Alors, il y a une appartenance. Je ne m'appartiens plus à moi-même, dit l'apôtre Paul. J'appartiens à Christ. Je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis un chrétien et je dois me comporter comme tel. Ce n'est pas free for all ou at large. Là. Je suis un enfant de Dieu, je suis un disciple du Seigneur. Et le mot « disciple » fait référence au fait que je dois être sous la discipline de. Car ces nations que tu chasseras. Écoute les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. C'est clair? À toi l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Oh, c'est juste pour le fun. Je vais être abominable aux yeux de Dieu juste pour le fun. Oh, je lis ça le matin en prenant mon café, puis je trouve ça cute. Lorsque j'entends ça, je dis aux gens, ben, écoutez, on va faire un deal. Au lieu de lire votre horoscope, lisez un verset de la Bible. Ça peut changer votre vie dans un sens positif. Si vous lisez les Belles Hivernes, parce que même si c'est abominable, ça n'en demeure pas moins des belles hivernes, ce qui est écrit dans les journaux. La plupart du temps, ça n'a jamais vu un astrologue de leur vie. C'est écrit souvent conçu par des ordinateurs. Ça n'a aucune espèce de valeur. Je ne veux pas dire que la carte du ciel en a plus, mais au moins, elle semble en avoir plus. C'est autant une abomination. La différence, c'est que l'horoscope va vous coûter 75 cents, je ne sais pas, ou une pièce, le journal, combien ça coûte, là. Puis la carte du ciel, elle risque de vous coûter très cher. Mais ce qui est plus grave, c'est que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui lisent leur horoscope, leur croyance envers l'astrologie va croître avec l'usage, comme la cigarette, ça. Et plus ils vont s'intéresser à le signe, plus ils vont avoir envie d'aller loin. Alors, de faire leur carte du ciel, etc. Et à partir de ce moment-là, ben, ils deviennent accros. Alors, moi, j'avais des clients qui venaient me voir à mon bureau, puis ils n'étaient pas capables de faire un pas sans me consulter. J'étais devenu comme un cerveau de sperme pour eux autres. Mais c'est dérangeant, à un moment donné. Je me rappelle, il y avait des gens qui m'écrivaient. Ils m'appelaient professeur Patel dans ce temps-là. Et c'était drôle, ça, cette histoire-là. Mais j'étais presque leur sauveur. Et moi, quand je lisais leur correspondance, je pleurais. Je dis, je peux rien faire pour ces gens-là, moi. Puis ils me demandent de les aider. Et quand j'ai connu le Seigneur, j'aurais voulu rentrer en communication avec ces personnes-là, mais j'avais plus la possibilité. Malheureusement, je n'ai pas été capable de le faire. Dieu me donne la possibilité, me donne accès à lui à travers son Fils. Moi, je n'ai plus besoin de regarder ma carte du ciel. À partir du 28 mai 1972, au lieu de faire confiance aux planètes puis aux étoiles, j'ai mis ma foi dans le Créateur des planètes et des étoiles. Et je peux vous dire que lui a un impact direct sur ma vie. Il a changé ma vie. Et il fait qu'à tous les jours, ma vie est une perpétuelle évolution. Je le souhaite de tout mon cœur de marcher dans les pas de son Fils, de marcher selon sa volonté et pour sa gloire. C'est mon choix, ça. Même si, puis on débattra pas là, de l'élection puis de la prédestination à matin, là, mais moi, je crois que même si Dieu savait le choix que j'allais faire, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi un jour qui ai ouvert la porte de mon cœur au Seigneur. Puis je lui ai dit, OK, tu peux rentrer. Puis il a fait le ménage dans mon cœur, dans ma vie. Je fais souvent, c'est pas une blague, mais je le fais des fois à la blague parce qu'on comprend. On comprend plus facilement de cette façon-là. Je dis, quand on vient au Seigneur, on arrive avec tous nos cossins, un paquet de bebelles qu'on garoche au pied du trône, au pied du Seigneur, au pied de la croix. On dit, tiens, Seigneur, organise-toi avec ça, moi, j'en veux plus. Puis le lendemain matin, on commence à rechailler de l'autre bord. C'est dommage. C'est dommage qu'on ait cette attitude de Jésus va dire à l'église d'Éphèse ce que j'ai contre toi. Tu sais, t'es correct, Éphèse, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Moi, je trouve que c'est le reproche le plus touchant de toute la Bible. Je trouve qu'il n'y a rien de plus dur pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, que d'entendre son Fils qui me dit, « Tu sais, tu m'aimes moins qu'avant, Yves. Tu te rappelles-tu au début de ta conversion comment tu étais zélé? Peut-être un petit peu zélé sans sagesse, mais en tout cas, tu étais zélé. » Là, tu es peut-être plus sage, mais tu es plus zélé. Tu as abandonné ton premier amour. Alors, peu importe ce que j'étais avant, à partir du moment où j'ai donné ma vie au Seigneur, où j'ai mis ma vie au pied de la croix, où j'ai dit, Seigneur, je comprends Je reconnais que ton fils est mort sur la croix à ma place. À partir de ce moment-là, j'ai le choix, là. Dans mon livre sur le tribunal de Christ, ça fait prétentieux de se citer, mais en tout cas, j'ai écrit « Dieu n'occupera jamais plus de place dans mon cœur, jamais plus d'espace que celui que je lui cède. Il ne fait pas de violation de domicile. » Et je pense que toutes les méthodes qu'on prenait pour essayer de vivre avant Dieu dans notre cœur, tout ce qu'on pouvait faire, peu importe que ça soit rattaché ou pas au monde de l'occultisme, c'était des efforts de s'auto-proclamer Dieu, au fond. Puis aujourd'hui, le nouvel ange, c'est ça. Cherchez plus Dieu à l'extérieur de vous. Vous êtes Dieu. Hey, ça commence à faire pas mal de Dieu, ça. Ma femme est enseignante. Et les enfants rois, vous avez entendu parler de ça, hein? Il doit en avoir dans la région ici. En tout cas, il y en a chez nous. Et là, le problème, c'est que les enfants rois sont devenus des adultes. Puis ils ont mis au monde des petits enfants rois. Alors, quand vous êtes enseignante, vous êtes poignée dans une classe avec 26 rois et reines. Essayez de régner là-dessus. C'est quoi le choix que j'ai à faire? C'est quoi? Moi, j'étais convaincu que la discipline dans laquelle j'étais, c'était correct. Si j'avais pu continuer d'être un astrologue chrétien, ben je continuerais d'être un astrologue chrétien. Si c'était permis par Dieu dans sa parole, ben je vois pas pourquoi je m'empêcherais de le faire. Mais Dieu le défend dans sa parole. Alors, ce sont des choix que je dois faire. Et de grâce, ne faites pas des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, même si vous êtes convaincu que c'est juste pour le fun. Alors, s'il y en a parmi vous qui n'avez pas pris position pour le Seigneur encore, peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont intéressé par le monde de l'astrologie, par les définitions, parce qu'aujourd'hui, les astrologues là, disent gros comme le bras que c'est scientifique, il y a plein de preuves, il y a même une Française, Elisabeth Tessier, qui est allée à la Sorbonne pour aller chercher un papier relié à la pratique de l'astrologie, la Sorbonne, c'est quand même pas une université de peu de valeur. Là. Mais il n'y a rien de scientifique là-dedans. Il faut chercher ailleurs. Alors, est-ce que je fais confiance aux étoiles? Est-ce que je fais confiance à la nature? Est-ce que, oui, il peut y avoir une certaine influence des différentes composantes de l'univers. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais quand on essaie de quantifier ça, quand on essaie de prouver que ça peut avoir un impact sur ma personnalité, moi, je débarque. Parce que c'est plus de la science, c'est de la mythologie. Mars puis Vénus, c'est des planètes, mais quand on les relie à la mythologie gréco-romaine, je débarque. Carl Jung, le grand psychologue, a fait la même chose. À partir de l'astrologie, à partir de la mythologie, il a créé ces 12 grands archétypes. Mais pour moi, là, bien de valeur, mais Jung, pour moi, il tombe exactement dans le même panneau. Alors, il veut faire de ces 12 caractéristiques-là, 12 types de personnalités différentes, ben moi, c'est de l'astrologie. Parce que son fondement, c'est la mythologie. Alors, le choix est simple. Ou bien je fais confiance dans ces entités-là, dans les planètes, les étoiles, les relations qu'elles ont les unes avec les autres, ou je fais confiance à celui qui a créé toute chose. Je vais terminer par une prière. Puis s'il y a quelqu'un dans la salle, moi je vais fermer mes yeux parce que je ne veux pas le savoir si vous levez votre main. Mais il y en a qui vont regarder. Et puis c'est bien qu'ils le fassent. C'est bien que certaines personnes soient en mesure d'aider d'autres personnes s'il y a des questions à poser. Et je vous demande de vous mettre honnêtement devant le Seigneur. S'il y a des choses qui vous chicotent encore à ce niveau-là, là, faites le ménage, s'il vous plaît. Pour le fun, lisez pas votre horoscope. Parce que lorsque vous faites ça, vous faites quelque chose qui est abominable aux yeux de Dieu. Alors, prions. Et Seigneur, on veut s'approcher de toi encore une fois. Et s'il y a quelqu'un ici, ce matin, qui a compris un peu plus, davantage, pourquoi tu défendais ces pratiques, Seigneur, si c'était défendu sous l'ancienne alliance, il n'y a aucune raison pourquoi ce serait permis sous la nouvelle. Et Seigneur Dieu, s'il y a quelqu'un qui a compris ça et qui veut plutôt te faire confiance à toi, qui est conscient que Jésus-Christ a dû payer de sa vie pour rembourser la dette que représentait le fardeau de nos péchés. Et Seigneur, je demande à ces gens de lever leurs mains. Toi, tu vas les voir. Toi, tu vas reconnaître ce geste-là comme étant le désir d'un changement dans leur vie. Elles auront à se mettre en règle avec toi, à reconnaître leur état de pécheur et de croire que Jésus-Christ est mort à leur place personnellement. Il n'est pas mort pour sauver tout le monde, il est mort pour me sauver moi, personnellement. Alors, Seigneur Dieu, on te demande de permettre que ces gens lèvent la main, posent ce geste de foi et cette confession publique aussi. Et Seigneur Dieu, on te demande de continuer à bénir cette assemblée. Merci pour les belles choses que tu as faites au fil des ans. Et merci pour ce que tu es en train de faire encore. Et Seigneur, bénis ton Église, bénis tes enfants, et fais que le jour où Jésus va venir nous prendre pour nous amener dans sa présence, dans ta maison, dans ce qui va devenir notre maison éternelle, eh bien, fais qu'on soit trouvé veillant, qu'on ne soit pas endormi sur le bord d'un bain, mais qu'on soit veillant et œuvrant pour ta gloire en Jésus. Amen.